Le symptôme est un paradoxe.
Le psychanalyste est un thérapeute. Ne l'oublions pas. On s'adresse à lui pour guérir, ou au moins aller mieux. Et il a donc affaire, et non pas lui seulement, mais tous les psys, aux symptômes, comme à quelque chose qui est à supprimer, dans la mesure où le symptôme, c'est ce qui ne va pas. Et que, si on va voir un psy, c'est parce que on pense y être pour quelque chose, qu'on s'attribue à soi-même ce qui ne va pas. Alors, il arrive qu'on vienne voir aussi un psychanalyste pour autre chose, par exemple, pour se connaître soi-même. Dans ce cas-là, sur cette base, il n'est pas sûr que la demande soit recevable. Il faut une plainte, il faut une souffrance. Le sujet consulte sur ce dont il se plaint, faute de savoir s'en débarrasser tout seul. Et disons donc que le symptôme se présente d'abord par sa face d'encombrement, d'inconfort. Alors, il y a des psys qui disent « Très bien, on va s'y mettre, de quoi souffrez-vous » et puis voilà l'arsenal dont je dispose et que je vais mettre à votre service pour une durée qu'on peut estimer, etc. Ce serait très bien si c'était la seule face du symptôme, cette face d'inconfort. Mais ce n'est pas la seule, et ce n'est pas la face la plus profonde du symptôme. D'abord, le symptôme, c'est au départ quelque chose que isole, désigne, cerne la personne elle-même, dans la mesure où elle ne s'y reconnaît pas. Elle ne se reconnaît pas dans un certain nombre de choses qu'elle fait ou qu'elle pense ou un certain nombre de phénomènes dont elle est le siège. Alors ça veut dire qu'il y a quelque chose où la personne se reconnaît. Il y a son image d'elle-même, l'image qu'elle a d'elle-même. Et disons que ça, c'est son moi. Son moi qui est précisément, vraisemblablement, essentiellement une image. Même certaines métaphores peuvent permettre de dire que c'est que le moi, c'est quelque chose qui naît dans le miroir, qui naît imaginaire, qui naît comme une forme totale, la forme du corps, et l'idée qu'on a de sa personnalité est modelée sur l'image, comme si le moi était une forme totale, susceptible de s'épanouir, une forme synthétique, et qu'il s'agit d'intégrer, dans lequel, par hasard, par inadvertance, par l'introduction d'idées fausses, il y aurait certains éléments là qui ne seraient pas ajustés et qu'on pourrait comprimer. Ça, c'est une... C'est très vraisemblablement une illusion. C'est ceux qui promettent, l'épanouissement de la personnalité font des promesses fallacieuses. Le symptôme n'est pas un accident. D'abord, le symptôme est ce qui échappe échappe à l'organisation du moi. Ce qui se maintient hors de son pouvoir de façon indépendante. Le symptôme a un caractère, si je puis dire, d'extraterritorialité par rapport à ce pouvoir qu'on appelle la conscience ou la synthèse de la personnalité. On peut la glisser toute la psychologie qui vous invite à être maître de vous-même. Et il y a aujourd'hui, en effet, des professeurs de maîtrise de soi. L'idéal, ce serait d'être maître de soi. Eh bien, le symptôme est une enclave dans l'empire du moi. On constate que... Enfin, par rapport à ce moi qui est imaginaire, le symptôme résiste. Si le moi est imaginaire, le symptôme, le vrai symptôme, est réel. Et d'ailleurs, chez un certain nombre de personnes, ce qu'elles ont de plus réel, c'est souvent leur symptôme. Le symptôme est là, il ne peut pas être éliminé. Alors, ce que Freud a constaté, c'est qu'il y avait comme ça des fragments du monde intérieur qui étaient étrangers à l'empire du moi. Et que le moi était conduit à s'y adapter comme... on suppose qu'il le fait pour le monde extérieur. C'est-à-dire que le moi fait souvent contre mauvaise fortune bon cœur et il adopte le symptôme. Freud appelle ça l'adaptation secondaire du moi au symptôme et même un pas de plus l'incorporation du symptôme au moi. Ça veut dire que dans un premier temps, ça vous gêne horriblement et dans un second temps, vous invitez le symptôme dans la sphère de votre moi, et ça se met à faire partie de vous, éventuellement, jusqu'au point où ça devient ce que vous aimez le mieux, le plus en vous. Et disons, c'est ce que Freud a découvert là, et qui invalide aux yeux des psychanalystes, au moins, toutes les promesses de guérison totale et rapide, c'est que il y a une satisfaction présente dans le symptôme. Une satisfaction qui est cachée. Une satisfaction qui, éventuellement, à votre moi, peut le faire souffrir, mais que le symptôme, lui, comporte néanmoins une satisfaction inconnue. Et le symptôme peut prendre le sens d'une satisfaction. Alors, Freud a d'abord découvert que les symptômes, c'était comme les rêves, des messages. Il a découvert ça chez des sujets qui parlaient avec leur corps, disons, et des morceaux de leur corps. Mais en étudiant les sujets malades de leur pensée, ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de penser à, quoi qu'ils en aient, il a découvert que le symptôme avait une valeur de jouissance. Vous avez par exemple des gens qui présentent des traits de caractère repoussants pour leur entourage, mais eux, ils ne font pas de différence entre leur moi et le symptôme. Ils tiennent à ces traits de caractère repoussants de façon essentielle. Pour eux, ce n'est pas quelque chose qu'il y aurait à supprimer, d'ailleurs, de ce modèle de personnes qu'on appelait des obsessionnels. Il y en a beaucoup dans les grandes organisations bureaucratiques sur lesquelles repose notre civilisation. Et ils font fonctionner ces grandes organisations grâce à leurs symptômes et ils y tiennent. Il faut qu'ils tombent sur une énigme pour que, à l'occasion tout de même, ils s'en séparent un peu. Sans ça, c'est grâce à leurs symptômes qu'ils gagnent leur vie. Alors, cette seconde phase est très différente de la première. La première phase, c'est là où ça gêne, où ça encombre, on veut s'en débarrasser. Mais la seconde phase est beaucoup plus importante pour la clinique. C'est la phase pour, même si on s'en plaint, on ne veut pas s'en débarrasser. Inconsciemment, on ne veut pas s'en débarrasser. Et il y a un noyau qui résiste. Alors, une fois résolues des difficultés de surface, on trouve ce noyau symptomatique qui tient à vous comme une tique à son chien. C'est un parasite. C'est comme si le symptôme était un organisme parasitaire interne à votre pensée, par exemple, et que il jouit de vous pendant que vous souffrez. Donc là, la guérison est quelque chose de beaucoup plus complexe que quand il s'agit du corps. Le symptôme est un mode de jouissance. Et en poussant un peu les limites qu'avait atteintes Freud, on peut même dire que dans l'espèce humaine, tout mode de jouissance est symptomatique. En tout cas, dans l'expérience analytique, on n'en rencontre pas d'autres. C'est généralisable. Les êtres parlants ne jouissent que de façon symptomatique. Ça ne va jamais comme il faudrait. Et là, l'idée est qu'il y a un détraquement essentiel qui fait une limite à toute guérison de la difficulté psychique. Bien sûr, c'est justement cette situation qui a fait que depuis toujours, il y a eu des bonimenteurs pour la promettre, cette guérison. Et aujourd'hui, ils la promettent volontiers dans le langage qui mime la science, le langage de la mesure. Mais en général, vous savez, c'est pour vendre des petites fioles, c'est pour vendre de la poudre de perlimpinpin, propagande pour l'état normal qui serait un état de bien-être permanent qui est inconnu au bataillon. Freud disait que la satisfaction du symptôme, c'est une satisfaction substitutive, mais ça n'est pas dire que c'est moins de satisfaction. Et en plus, il devait constater que ce substitut, cet ersatz, puisque c'est le mot qu'il emploie, fait aussi bien que l'original. Les satisfactions substitutives, on n'arrive pas à les distinguer des satisfactions qui ne le seraient pas. Et l'idée de Lacan, c'est que finalement, toutes les satisfactions sont substitutives, elles se substituent à celles dont on rêve, mais qu'il n'y a pas. Disons celle de la pleine satisfaction sexuelle. Alors ça peut donner du mal, ça peut donner de l'inconfort, produire de la douleur, et néanmoins, à l'intérieur de ce mal, il y a une jouissance cachée. Alors ça, c'est un paradoxe. C'est que le sujet, même souffrant, à un certain niveau, il est foncièrement heureux. C'est difficile à concevoir. Et c'est pourquoi Freud, pour essayer de le faire comprendre, a inventé un mythe, qu'il appelle la pulsion, qui renvoie à la notion que le sujet est toujours heureux sans le savoir et même dans sa douleur, et que l'inconscient est là comme un parasite qui veut cette jouissance, même si à vous, à votre moi, ça coûte. C'est dire que l'homme est habité. Il est habité par plus fort que lui. Et au sein même de son intimité, là je suis obligé de penser à la façon dont s'exprime saint Augustin, intimior intimo meo, plus intime que mon intime. Et bien, il dit ça de Dieu. Il est possible que ce soit là que vienne, enfin, s'impose l'idée de Dieu, qu'elle est son fondement dans cette intimité qui m'est étrangère en moi-même, et que Lacan a appelé un néologisme qui s'est un peu répandu depuis, l'extimité. Ça, c'est au sein de... Est-ce Dieu? Est-ce un parasite? Là, ce sont peut-être les deux faces, enfin, là aussi, d'un même phénomène. Alors, en tout cas, dans l'analyse, ça définit la position de l'analyste dans son inhumanité. Parce que si on se règle sur l'idée que le sujet est toujours heureux au niveau de la pulsion, ça coupe la position de l'analyste de la compassion, de la pitié, de l'aide samaritaine. L'analyste vise ce point où, dans sa douleur, le sujet est satisfait. C'est monstrueux, si on veut. Et la position analytique est monstrueuse. Oui. Pensez donc, quelqu'un vient chez vous en pleurant. Il n'est pas conseillé de s'esclaffer, bien sûr. Mais parfois, ça a de bons effets d'esquisser un petit sourire devant les grandes souffrances. Parce que si vous le faites bien, ce petit sourire, ça peut permettre au sujet qui souffre de se décaler un petit peu de sa souffrance. Enfin, là, il faut du tact. Parce que ça peut aussi conduire le candidat patient à prendre la poudre d'escampette. Le sujet est heureux, toute rencontre lui est bonne pour le maintenir, et les rencontres, les incidents, les accidents, ça alimente la répétition du même bonheur dans la souffrance.